Et bonjour tout le monde, vous êtes sur le Francophone. Aujourd'hui, on va discuter de l'acidocytose normoglycémique causée par les inhibiteurs des SGLT2. C'est parti.
Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Alors, je suis aujourd'hui avec Mathieu et Ariane. Bonjour vous deux, comment ça va?
Salut Yann, ça va très bien, toi?
Super, Ariane, en forme?
Oui, ça va bien.
Excellent. Alors, ça tombe super bien, hein? J'ai deux pharmaciens avec moi parce que ce médicament-là, quoique assez nouveau, peut causer de lourds problèmes. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de ma dernière garde, j'ai justement eu un patient qui avait à la fois une toxicité au metformin et une acidocétose de jeûne est causée également par les SGLT2. Alors, je pense que de mémoire, c'est mon troisième cas que j'ai au cours des dernières années. On dirait que les cas semblent un peu plus s'accélérer. Je parlais avec mes collègues qui en avaient eu aussi quelques-uns. Donc, on trouvait ça important de vous en parler parce qu'on devrait en voir de plus en plus au cours des prochaines années, même peut-être au cours des prochains mois. Et je trouvais ça pertinent d'en parler. Mon patient a quand même bien évolué. Il y avait plusieurs autres comorbidités qui s'ajoutaient à ça. Il y avait une hypertension pulmonaire, une infibrillation auriculaire. Mais au fond, à partir du moment qu'on a compris qu'est-ce qui se passait, ça l'a aidé de loin ma prise en charge envers ma patiente. C'est assez spécial comme fonctionnement. En fait, je pense que on devrait commencer par Mathieu. Mathieu, pourrais-tu un petit peu m'expliquer comment fonctionnent les SGLT2 là, de base, là, puis ça sur les patients, là, puis pourquoi qu'on en voit de plus en plus?
Oui, mais dans le fond, c'est une nouvelle classe de médicaments qu'on utilise en diabète de type 2 chronique. C'est rendu même dans les guidelines, il y a de plus en plus de données là-dessus là, pour diverses pathologies, que ce soit les comorbidités rénales ou cardiaques. Dans le fond, c'est un médicament qui va littéralement te faire uriner du sucre. Là. Ça te fait pisser du sucre là, en inhibant la réabsorption de sucre au niveau urinaire. Fait que ça te fait une glycosurie. Ça va aussi entraîner une diminution de la réabsorption de sodium, fait que ça fait que tu vas avoir un petit peu de dépression volémique. Mais on s'entend, là, c'est pas le Lasix à 250 mg IV aux 8 heures, mais c'est quand même l'équivalent d'une petite dose de Lasix, donc c'est un diurétique en soi.
Avant d'arriver dans la pharmaco dynamique, puis surtout la physiopathologie, Ariane, toi, tu travailles un peu avec ce médicament-là. Hein? Je pense qu'à l'Institut de cardiologie, là, vous en donnez beaucoup. Fait que tu peux-tu un petit peu m'expliquer les avantages de ce médicament-là, puis pourquoi qu'il est si nouvellement apprécié, là?
Oui, ben, en fait, c'est ça. Comme Mathieu l'a super bien expliqué, là, le mécanisme d'action fait en sorte que, on a de plus en plus d'évidence que c'est très bénéfique chez les patients en insuffisance cardiaque, entre autres. Donc, il y a eu l'étude d'APA-HF qui a pas mal fait bouger les choses là, en insuffisance cardiaque. Ce n'est pas encore clair à 100% qu'est-ce qui explique la réduction de la mortalité cardiovasculaire avec ce type de molécule-là chez les personnes avec une fraction d'éjection réduite, là, mais on pense que c'est ça, c'est probablement l'effet de natriurèse, donc de diurèse osmotique qui vient aider ces patients-là. Mais donc, nous, c'est ça, on l'utilise de plus en plus, on l'initie de plus en plus au congé d'un séjour à l'Institut de cardiologie parce que c'est ça, non seulement il y a des bénéfices chez ces populations-là, mais c'est très souvent la population qu'on voit a aussi atteint de diabète, ils ont aussi des atteintes rénales. Donc, on a plein de. Avec une molécule, on vient jouer sur plusieurs comorbidités là, de nos patients cardiovasculaires. Puis, je vous dirais que c'est ça. Pour l'instant, on est un peu en retard là, au Québec là, pour ce qui est du remboursement de ce médicament-là. Pour l'instant, c'est encore seulement pour le diabète que c'est remboursé. Ou si on a un patient qui a une maladie cardiovasculaire avec un HbA1c qui est supérieur à 7, là. Mais pour l'instant, ça n'a pas été approuvé pour ce qui est d'une indication de l'insuffisance cardiaque, mais ça ne devrait pas tarder. Fait que je pense qu'il faut juste être à l'affût qu'on va voir de plus en plus l'utilisation de ce type de thérapie-là. Donc, il faut être prêt à savoir comment gérer une complication parce qu'ils ont aussi tout leur lot d'effets secondaires et de risques associés. Donc, je pense que c'est important d'être familier là, avec ce type de thérapie-là.
Bon, parlant justement de complications, si le médicament cause une complication, c'est parce que souvent il va avoir des facteurs aggravants, là, des triggers, là. Alors, Mathieu, peux-tu m'expliquer un petit peu lorsqu'il cause problème, lorsqu'il fait de l'acidocétose normaux ou euglycémique, qu'est-ce qui se passe exactement là, chez nos patients?
Oui, parce que dans le fond, comme dans le fond, tu pisses ton sucre, veux pas, tu vas t'auto-réguler, tu vas diminuer un peu ta sécrétion d'insuline, parce que dans le fond, tu vas être normoglycémique. Ça va bien chez notre patient standard là, qui prend ses médicaments. Sauf que là, maintenant, il va arriver une maladie, une chirurgie, un stress, une infection urinaire, parce qu'on le sait que ces médicaments-là aussi augmentent le risque d'infection urinaire. Là, ce qui va se passer, bien, le patient va avoir moins d'apport calorique, moins d'apport glycémique. Donc, cette régulation hormonale-là va faire que, bon, on va tomber plus en stress, plus de catécholamine, plus de cortisol, ce qui fait qu'au final, comme on n'aura pas nécessairement plus d'insuline, hein, parce que le patient va, au niveau du corps, rester euglycémique, on va tomber en lipolyse, qui va nous amener à relarguer des corps gras, qui va nous amener vraiment en cétose. Littéralement, on va produire des cétones, comme une acido-cétose diabétique standard, comme on les voit. Fait que le patient tombe en cétose, mais il va rester euglycémique à cause du mécanisme d'action du médicament. Donc, c'est vraiment un piège clinique là, qu'on peut facilement tomber dedans parce que tu te dis, ben, ça ne peut pas être une acido-cétose diabétique, là, le patient a des glycémies standards. Mais à cause de son mécanisme d'action, ben c'est comme ça que ça va se passer, là. Puis ça peut créer des troubles iéniques assez importants.
Un peu dans les. En fait, c'est les mêmes critères d'acidocétose, mais avec une glycémie normale ou même qui peut être abaissée. Je sais que dans le cas que j'ai eu, c'était des hypoglycémies là, parce qu'il y avait une acidocétose de jeûne là, qui s'est ajoutée à ça encore plus. Là. Bon, maintenant qu'on comprend comment la molécule cause cette problématique-là, Mathieu, tu pourrais-tu un petit peu nous expliquer comment on soigne ça? Est-ce que c'est différent d'une acidocétose diabétique standard?
Ben, c'est pas tant différent, sauf que on va être gêné de partir l'insuline quand la glycémie va être limite normale, limite basse. Fait que ce qui va être important, ça va être de donner du dextrose pour pouvoir donner de l'insuline, parce que dans le fond, on veut juste casser le métabolisme pour être capable de le ramener là, comme il faut et briser là, cette lipolyse, puis briser cette production de cétone. Puis dans les autres petits trucs qu'on peut faire, on peut aider le cycle de Krebs hein, avec de la thiamine. On peut donner de la thiamine haute dose, c'est des cofacteurs du cycle de Krebs. On en a parlé en masse dans un épisode antérieur. C'est des petites choses qui peuvent nous aider à aider la mitochondrie, à aider le métabolisme. Fait que en bref, ça revient à traiter un peu de la même façon. Mais on va donner du glucose pour nous permettre de donner de l'insuline. Fait que ça se peut qu'on ait besoin de donner des doses plus faibles que ce qu'on donne d'habitude en acidocétose, parce que là, on va être limité par notre glycémie. Mais on peut quand même aider là, la mitochondrie avec la thiamine. Puis c'est sûr, ça va de soi, on arrête le médicament.
Normalement, quand on est dans l'acidocétose diabétique, on ne donne pas de perf de Bic parce que sinon on donnerait du sucre. Hein. Si j'ai une glycémie à 35-40, pas très, très, très une bonne idée de donner une perf de Bic. Mais de toute façon, quand on hydrate notre patient, ben, l'acidose va passer avec l'insuline et tout et tout. Est-ce que tu penses que, tu sais, je sais qu'il n'y a pas de guideline là-dessus, là, mais juste vite ton opinion à toi et à Ariane là-dessus, est-ce que tu penses que de donner une perf de Bic, surtout si on a une acidose sévère là, du 6,8, 6,9, pour nous permettre de donner un petit peu plus d'insuline pour aider le traitement. Est-ce que tu penses que ça serait pertinent d'aller vers une perfusion de bicarbonate là, standard, là, 3 ampoules dans 850 de dextrosé, là?
Ben, c'est sûr que tu sais, dans la littérature, on peut pas dire qu'il y a énormément, énormément de papiers là-dessus, mais je pense qu'on peut quand même se fier aux données qu'on a en acidocétose diabétique standard. Ce qu'on dit, tu sais, les BIC, on essaie de pas vraiment donner, sauf si on a un pH sévère, en bas de 7. En bas de 7,1, on peut commencer à le considérer. Fait que tu sais, je pense que ce qu'on peut retenir des BIC, c'est que si tu as une acidose vraiment très sévère, qui ne se corrige pas ou que tu ne peux pas casser là, ou essayer de fermer ton trou anionique rapidement parce que tu es limité à cause des glycémies et que tu retardes l'administration de l'insuline, peut-être que oui, là, ça pourrait valoir la peine de le donner, mais tu sais, si tu es capable de partir ta glycémie, la garder correcte avec du glucose, puis partir ton insuline rapidement, ton trou anionique se ferme assez rapidement, puis ton acidose se corrige vite, peut-être pas. Mais si tu as de la difficulté à le corriger ou tu es limité, peut-être que je pense que ça peut être justifié, surtout si tu as une acidose en bas de 7, là.
Puis naturellement, ben, j'ajouterais à traitement, comme dans n'importe quelle acidocétose diabétique, ben, d'hydrater ton patient. Je pense que c'est l'affaire la plus importante. Puis tu peux l'hydrater avec un lactate ou un NS, là, en fonction de ta natrémie ou ta pseudo-hyponatrémie.
Naturellement, on donne l'insuline IV, fait qu'il faut suivre nos électrolytes, là, potassium, phosphore, etc. Là. C'est le reste de la prise en charge est pas mal la
Ouais,
même
le
façon.
standard. Je me demandais, je voulais savoir, est-ce qu'on a une explication pourquoi que justement, parce que c'était exactement ce qui est arrivé à ma patiente, elle a fait une infection urinaire, donc probablement causée par le médicament. C'est quoi le lien entre le médicament puis l'infection urinaire? Est-ce qu'on est capable de l'expliquer, Mathieu?
Ben, c'est probablement l'hypothèse qui est le plus là, supportée, là, c'est ben, juste le fait de pisser du sucre, ben, fait que ça nourrit les bactéries, puis ça favorise la croissance bactérienne, puis que ça remonte au niveau du tube du tractus là, urinaire. Puis ça peut être autant bactérien que ça peut être autant fongique. Donc, faut être à l'affût. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a quelques cas de candidémie là, rapportés dans la littérature, mais ça, c'est plus l'exception que la règle. Fait que les patients vont avoir des infections urinaires, soit à Candida ou soit des cystites là, bactériennes.
Puis, probablement que la plupart de ces patients-là, un peu à l'instar de la patiente que j'ai eue, ont du metformin. Donc, quand les deux sont ensemble, ça devient assez catastrophique, là, mais ça va plus dans l'acidose lactique causée par le metformin. Donc, on a doublement une acidose métabolique à gérer qui est à la fois causée par l'acidocétose et par le metformin à garder en tête. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ce n'est pas un épisode qu'on voulait lourd, on voulait vraiment vous aiguiller à ça. Je pense qu'il y a quelques petits points importants à garder en tête. Alors, je pense que lorsque vous allez avoir un patient diabétique qui a ce médicament-là et qui se pointe à l'hôpital, là, je parle aux urgentologues, aux hospitalistes, aux intensivistes, à tout le monde, même aux nurses qui nous écoutent, lorsque vous voyez ce médicament-là, si le patient vient à l'hôpital, je pense que l'affaire la plus sage, un peu comme on fait avec le metformin, hein, qui, je dis à mes résidents, le metformin aux soins intensifs, c'est un poison, là. Donc, il faut arrêter ce médicament-là le plus tôt possible. Et si vous voyez votre patient arriver aux soins intensifs et qui est encore sous médicament du SGLT2, en passant, là, on n'aime pas ça trop donner les noms commerciaux, mais comme le médicament est assez nouveau, c'est peut-être ce que vous allez entendre comme Jardiance ou comme le Forxiga, probablement qu'ils ont des noms un peu différents selon les pays, mais c'est souvent ces médicaments-là, c'est souvent ceux qu'on entend. Alors, lorsque vous voyez ces médicaments-là, arrêtez ça tout de suite avec le metformin. Bref, je pense qu'un patient qui rentre aux soins intensifs puis qu'on veut contrôler sa glycémie, il y a un seul médicament qui est de mise, c'est l'insuline. L'autre chose, et ça, c'est comme tu le disais tantôt, c'est un piège clinique, hein? Ça pourrait faire une excellente question d'examen là, dans les prochaines années là, pour nos étudiants qui vont graduer. Alors, Ariane, sois à l'affût, peut-être qu'un jour tu vas avoir ça dans un de tes examens. Donc, lorsque vous avez une acidose métabolique, peu importe, je pense que tout le monde a le réflexe de regarder le sucre, mais je pense qu'il faut regarder les cétones. Donc, surtout si vous avez un patient diabétique, regardez vos cétones, ou du moins, comme on le sait, hein, les acidocétoses, il n'y a pas toujours des cétones dans l'urine, mais il y a souvent une glycosurie, surtout associée avec ce médicament-là. L'autre chose, lorsqu'on regarde la pharmacodynamique de ce médicament-là, ben, comme tout le monde le sait, en général, lorsqu'on a atteint 5 demi-vies, ben, il n'y a plus de médicaments dans le sang de façon assez significative pour causer des symptômes. Malheureusement, il y a certaines études ou case reports qui nous montrent que ça peut aller jusqu'à, en fait, le 5 demi-vie, c'est 2 à 3 jours là, pour les SGLT2, mais il y a certaines études qui montrent que ça peut aller jusqu'à 9-10 jours où est-ce qu'on voit encore des symptômes de glycosurie. Je sais que ma patiente, après 5 jours, il y avait encore de la glycosurie, même s'il n'y avait plus de cétone. L'acidité était passée, mais j'étais pris un peu avec le metformin, là, mais quand même, on voyait qu'il y avait encore de la glycosurie. J'ai un de mes collègues, celui auquel j'ai transféré ma patiente lundi matin, qui me disait que eux, ils avaient fait un papier, puis pendant son fellowship, il faisait de la chirurgie bariatrique. Il m'expliquait que, à la suite de 3 catastrophes qu'ils ont eues sur les patients pour des chirurgies bariatriques, ben, ils ont pris comme décision qu'ils arrêtaient le médicament, les SGLT2, jusqu'à 4 semaines. avant la chirurgie pour être certain qu'il ne reste plus rien dans leur système, parce que souvent ces patients-là ont aussi des insuffisances rénales et ont de la misère à clairer les médicaments. Donc, par précaution, à la 4 semaines. Je ne sais pas si on doit aller jusqu'à 4 semaines, mais pour nous, ce qui est important, c'est de l'arrêter. Alors, pour terminer, Mathieu, Ariane, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport aux médicaments?
Oui, ben c'est ça. Dans la même lignée, là, souvent, nous, ben, on reçoit des transferts de d'autres hôpitaux. Puis c'est souvent un élément qui est oublié. Tu sais, c'est quand ils transfèrent les patients à l'institut, c'est pour une chirurgie cardiaque. Puis là, ça, ils sont encore sur leurs médicaments, puis ils vont être opérés le lendemain. Donc, nous, souvent, en tant que pharmacien, on fait la préadmission. Puis là, c'est encore là. Donc, on s'assure toujours de mettre une note pour l'intensiviste qui va accueillir le patient en post-op, de dire attention, le patient a reçu un inhibiteur de la SGLT2 pré-op. Soyez à l'affût si justement vous avez une acidose métabolique non expliquée avec faire le trou à ionique puis voir à la limite de faire des cétones urinaires. Puis ça nous est arrivé, là, on en a eu des cas. Donc, juste peut-être de porter, s'il y a des pharmaciens qui nous écoutent ou des médecins d'autres centres, si vous transférez un patient, si c'est un patient instable, peu importe, c'est super important de les suspendre. Puis, si vous pensez que votre patient peut bénéficier de ce type de thérapie-là, bien, peut-être de l'initier comme. C'est ça, le plus proche du congé ou qui est peut-être au congé avec un suivi là, avec le médecin de famille là, pour éviter des complications
Un peu comme toutes les hypoglycémies oraux, au fond, quand les patients vont bien, bien on commence à les réintroduire tranquillement là, vers la fin de l'hospitalisation. Excellent, c'est un excellent conseil.
Puis aussi, juste peut-être pour terminer, il y a un avis de Santé Canada, si jamais vous avez un patient qui a déjà présenté une acidocétose euglycémique avec ce type de thérapie-là, c'est contre-indiqué de réinitier ce type de molécule-là dans le futur. Donc, c'est bon aussi d'aviser vos pharmaciens, de mettre une note au dossier. Souvent, nous, on va appeler à la pharmacie communautaire, puis ça va être une espèce de contre-indication par la suite là, d'éviter de reprendre ce type de thérapie-là.
Alors, même si ce n'est pas une allergie, on le traite comme une allergie, finalement.
Oui.
C'est banni.
Vu que c'est quand même très dangereux, puis souvent, ça passe sous le radar, malheureusement. Là, on essaie d'éviter d'y réexposer.
On l'a pas dit également, mais je pense que ce qui peut être sage, c'est de faire un dosage du bêta-hydroxybutyrate qui pourrait un peu nous aider à aiguiller le diagnostic là, lorsqu'on n'est pas certain ou lorsque les cétones sont faibles ou avec des traces. Ça peut toujours venir ajouter au diagnostic. Alors, ce fut intéressant. Merci beaucoup à vous deux. J'espère, aux auditeurs, que vous avez apprécié. Je pense que c'est nécessaire d'être très, très, très à l'affût de cette nouvelle, si on veut, pathologie-là. En passant, c'est pas tellement nouveau, là, mais les premières acidocétoses normoglycémiques ont été définies en 1973, la première fois. Je pense pas que c'était à cause des SGLT2. J'ai pas la cause de ça, mais quand même, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on va voir malheureusement au cours des prochaines années. Alors, restez à l'affût. Je vous dis bonjour. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Bye.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.